12h.
Le journal de midi.
Paul Bénédicte Boulou.
Il est 12h, bienvenue dans votre journal. Bonjour à tous, voici les titres de ce lundi 29 avril. Nous travaillons pour qu'en 2020, nous ayons une monnaie régionale au niveau de la CEDEAO. Ces propos ont été tenus par le président guinéen Alpha Condé lors de sa visite d'amitié et de travail effectuée récemment en Côte d'Ivoire. Une monnaie régionale au niveau de la CEDEAO, un thème d'actualité recouvrant plusieurs enjeux. L'objectif de 2020 est-il possible? La question divise beaucoup de personnes. Nous aurons la réponse d'un enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké dans ce 12h. Commercialisation de la noix de cajou pour la campagne 2019 face aux difficultés d'enlèvement des produits au non-respect du prix du kilogramme. Un groupe d'opérateurs ivoiriens, des exportateurs et des acheteurs décide avec le soutien du Conseil du coton et de la nacarde de mener dans le Zanzan une opération baptisée « Zonage ». Hors des frontières ivoiriennes, attaque d'une église au Burkina Faso, pays en proie à des attaques terroristes récurrentes, a fait 5 morts hier dimanche 28 avril à 60 km de Djibo, chef-lieu de la province du Zoum dans le nord du Burkina Faso, a-t-on appris de l'AFP. Et puis dans les dernières minutes de ce journal, nous aurons comme invité de la rédaction l'ancien député Kwadio Konan-Bertin Dikakabé qui se prononcera sur l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire, notamment au lendemain de sa rencontre avec le président. Président ivoirien, il sera interrogé par Jean-Claude Mabéa. Voilà pour l'essentiel. En 2020, la CEDEAO devrait avoir sa monnaie régionale. Les chefs d'État y travaillent. Cette information a été donnée par le président guinéen Alpha Condé lors de sa récente visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire du 25 au 27 avril dernier. C'était en réponse à un journaliste qui a voulu avoir son avis sur le franc CFA et son avenir. On écoute les explications du président Alpha Condé sur le projet.
Nous, on n'est pas membre de CFA. Vous savez, la monnaie guinéenne n'a pas été créée volontairement. Le président Sékou Paix à son âme, n'a pas voulu créer la monnaie. Mais vous savez, dans les conditions dans lesquelles nous avons conflit, dans lesquelles nous avons eu l'indépendance, et progressivement, chaque fois que les billets CFA allaient à Dakar, ils étaient bloqués. Mais à un moment donné, l'économie guinéenne a été asphyxiée sans billets. C'est ça qui a amené le président Sékou Touré à créer la monnaie précipitamment. Mais comme je l'ai dit à mon frère Alassane, moi je suis toujours partisan d'une monnaie régionale. Et je suis très heureux aujourd'hui que nous travaillons pour la monnaie. Je pense qu'en 2020, nous aurons une monnaie des pays africains de la CEDEAO, qu'ils soient francophones, anglophones ou lusophones. Le plus important, c'est qu'on ait une monnaie commune. Et je pense que nous travaillons dans ce sens-là. Et ça veut dire que le franc CFA sera dépassé dans ce cadre-là.
Alpha Condé, président de la République de Guinée. Ce débat est ouvert depuis belle lurette. L'objectif de 2020 est-il possible? La question divise beaucoup de personnes qui suivent ce dossier. Pour un enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké, ce projet de monnaie unique des 15 pays de la CEDEAO est noble. Toutefois, souligne Dr Prao Yao Séraphin, l'échéance de 2020 est impossible face à certains obstacles à aplanir. Il s'en explique.
Ça parle du domaine possible, mais pas en 2020. Nous sommes en 2019, donc c'est pas possible qu'en une année, tous ces obstacles soient levés, c'est pas possible. Le projet lui-même, le principe d'avoir la monnaie commune, c'est une bonne idée, c'est un bon projet. Ça, c'est fait. Maintenant, quant au timing, c'est-à-dire qu'au niveau du calendrier, je ne pense pas. En tout cas, à mon humble avis, parce que les questions monétaires, ce sont des questions très sérieuses, qu'on ne traite pas comme ça de façon active. Chaque sous-question doit être adressée avec la bonne réponse. Et donc, c'est pour cela que je pense que 2020, n'est pas réalisable pour ce projet.
Donc, la faisabilité de ce projet, à quelles conditions?
La condition fondamentale, c'est que d'abord, il faut que nous réglions ces histoires de leadership entre la zone franc et surtout, le problème fondamental, moi, je pense, c'est le président ivoirien et le président sénégalais. Parce que ce sont les deux ténors de la zone UEMOA, donc ils doivent s'entendre, et puis fondamentalement avec le Nigeria. Donc voilà le triumvirat, à mon humble avis, ça veut dire Côte d'Ivoire, Sénégal et Nigeria. Je pense que ces trois présidents doivent s'entendre pour que ce projet puisse aboutir. Et puis après, si ces trois présidents ont la volonté politique, tout le reste viendra.
Docteur Prao Yao Serafin, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké, joint par Soro Adams. Droit et justice communautaire dans l'espace UEMOA, la sensibilisation sur le droit et la justice communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est le thème des réflexions. Donc, au terme de 4 jours de travaux, le séminaire organisé au profit de la Côte d'Ivoire s'est achevé vendredi dernier. Cette rencontre marque le top départ d'une série d'ateliers qui aura lieu dans les 8 pays de l'espace. Reportage Bonnie Cabier.
Formulant le vœu que le droit communautaire soit mieux compris, plus accepté et effectivement appliqué dans notre espace économique commun.
Ces propos sont de la présidente de la Cour de justice de l'UEMOA, Joséphine Suzanne Ebatouré, n'a pu s'empêcher d'engager tous les acteurs de ce droit communautaire.
Les différentes plaintes sur la réalité du principe de la libre circulation des personnes, des biens et des services et la méconnaissance du droit de la concurrence impliquent un effort de tous dans l'adoption des solutions. C'est un droit qui pour nous est nouveau. Je nous engage tous à faire cet effort-là pour le bien de nos concitoyens. Ce rapport que nous venons d'adopter sera un rapport qui va permettre de nouer beaucoup de problèmes.
Francis Amani Kouadio est le conseiller technique du ministre de l'économie et des finances. Représentant son ministre, il a fait observer ceci.
Des importants efforts restent à relever. Il s'agit du faible taux des échanges intracommunautaires dans l'Union, 9,6% en 1996. À 16,1% au total des échanges en 2018. Cette faible évolution pourrait s'expliquer par de nombreux contrôles sur les corridors, des prélèvements illicites et autres faux frais et des difficultés pour certaines entreprises à accéder au marché, notamment public, de certains pays de l'Union. Ce sont autant de défis.
Après l'étape d'Abidjan, le cap sera mis sur le Bénin et les années prochaines vers les 6 autres pays de l'UEMOA, l'Union qui compte un peu plus de 120 millions d'habitants.
Parlons à présent agriculture. La campagne 2019 de la commercialisation de la noix de cajou se trouve en ce moment dans la tourmente. En plus des difficultés d'enlèvement des produits depuis les zones de production, le prix Borchon fixé par l'État de Côte d'Ivoire, qui est de 375 francs CFA le kilogramme, n'est pas respecté sur le terrain. Pour parer donc à cette situation, un groupe d'opérateurs ivoiriens parmi lesquels se trouvent des exportateurs, des acheteurs, a décidé en collaboration avec le Conseil du coton et de l'Anacard de mener dans le Zanzan une opération baptisée zonage. Compte rendu, Émilie Yao.
Hier, le produit était payé à 150 francs. Moi-même, j'ai vendu ma production à 200 francs CFA au lieu de 375.
Mes enfants sont quittés à la côte à 3 pour qu'ils vont à l'école le lundi. Je suis obligé d'aller prendre un prêt. Si c'était à 375, je n'allais pas prendre prêt. Mais 150, vraiment, c'est dur.
Ils sont nombreux, ces producteurs et productrices de noix de cajou, visiblement agacés par la mévente de leurs produits et surtout le non-respect du prix Borchon. Cette opération zonage est donc une réponse du Conseil Coton et Anacard et de ses partenaires locaux pour parer au plus pressé. Ali El Hadj, exportateur ivoirien agréé.
L'opération zonage, c'est acheter directement avec le producteur à 375 francs Borchon, bien trié, bien séché, j'insiste là-dessus. Certes, nous débutons ici dans le Zanzan pour lancer l'opération, mais c'est une action nationale pour rehausser la filière de cajou.
Les localités de Sapli, Flakiedougou et Kwasindawa dans la sous-préfecture de Bondoukou ont été visitées à la faveur du lancement de l'opération. Aïe Alain Raphaël, acheteur agréé, en a profité pour rassurer plus d'un producteur.
C'est une phase pilote qui a concerné les zones qui sont proches de Bonoukou. Mais d'ici lundi au mardi, nous allons faire un maillage très sérieux de la zone et puis on va prendre tout le monde.
C'est une opération qui veut s'inscrire dans la durée jusqu'à ce que le dernier grain d'anacarde soit enlevé des mains du producteur. Seulement, on demande à nos parents d'être patients.
200 tonnes de produits ont même été enlevées, séance tenante. Émile Yao, Bonoukou. Radio de la Paix.
Le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME exhorte les petites et moyennes entreprises à revendiquer auprès des instances compétentes que les grands groupes leur transmettent les 20% au moins de la part de la commande publique que l'État leur réserve et cela conformément aux dispositions légales. Et pour passer ce message, Anoblé Félix entreprend depuis le 26 avril dernier une tournée nationale. Il revient ici sur les objectifs de sa mission.
Les PME en Côte d'Ivoire représentent 80% des entreprises formellement constituées. Et malheureusement, elles ne contribuent que de 18 à 20% donc du PIB. important pour nous de pouvoir travailler à ce niveau, non seulement pour élever le niveau de participation de ces entreprises au niveau donc, de l'économie nationale, mais connaître véritablement les problèmes que vivent ces entreprises et essayer de trouver des solutions. Et nous avons remarqué aussi que de nombreuses lois et des dispositifs ont été mis en place pour accompagner les PME, mais que les PME sont les dernières personnes à savoir qu'est-ce que l'État fait pour elles. Donc il était important de faire cette tournée pour pouvoir donc expliquer l'ensemble des dispositifs mis en place et tout ce que notre département fait pour la promotion des PME et pour l'encadrement donc des entrepreneurs et des PME de Côte d'Ivoire. Faire en sorte qu'à la fin de la tournée, nous puissions donc véritablement toucher l'ensemble des cibles des PME, les sensibiliser à se formaliser pour pouvoir bénéficier des avantages que l'État donc a mis en place, mais aussi faire en sorte qu'elles puissent participer véritablement à l'économie. Mais surtout, voir quels sont les problèmes que ces entreprises ont pour pouvoir améliorer le plan Félix et pour la mise en application donc du développement des PME ivoiriennes.
Anouble Félix, secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, chargé de la promotion des petites et moyennes entreprises. Place à l'enseignement privé. Le syndicat national des enseignants et des personnels du privé laïque de Côte d'Ivoire décide de reprendre le 6 mai prochain sa grève suspendue depuis le 19 mars dernier. La non-augmentation des salaires dans le privé laïque serait la raison de ce débrayage annoncé parce que, selon le secrétaire général du Sinaplasi, l'État n'a pas encore pris d'arrêté dans ce sens. On écoute Camara Oumar.
Nous étions en grève depuis le 5 février. À la demande du gouvernement, nous l'avons suspendu depuis le 19 mars pour un mois. Et il s'est trouvé que depuis cette suspension jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucune discussion avec aucune autorité. C'est pour cela que nous reprenons la grève le 6 mai. Depuis 24 ans, nous sommes bloqués au même salaire. Voilà. Et donc, jusqu'à présent, l'État rechigne à sortir l'arrêté portant augmentation des salaires dans l'enseignement privé laïque, ce qui nous bloque juridiquement dans l'application de ces dispositions-là.
Alors, justement, sur cette question, l'État n'est pas votre employeur. Vos employeurs sont connus. Pourquoi vous ne vous dirigez pas vers eux?
Oui, l'État n'est pas notre employeur, mais c'est l'État qui est chargé de la production de la réglementation. Donc, les augmentations de salaire, tous les 32 secteurs d'activité en Côte d'Ivoire ont reçu leur arrêté d'augmentation des salaires, sauf l'enseignement privé laïque. Or, il faut ce document-là pour que nous puissions demander à nos employeurs de l'appliquer. Et l'État rechigne à nous sortir ce document, nous ne savons pas pourquoi.
Camara Oumar, secrétaire général du Sinéplasi, le syndicat national des enseignants et des personnels du privé laïque de Côte d'Ivoire. Et puis pour terminer, à l'occasion du lancement du concours de recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants contractuels pour le préscolaire, le primaire, le secondaire, le 28 avril 2019 à Abidjan, le premier ministre ivoirien Madougon Koulibaly a indiqué que l'éducation est l'investissement le plus important pour l'avenir du pays. Selon Amadougon Koulibaly, c'est pour cela que le gouvernement se donne les moyens de combler le déficit en enseignants qui a été évalué à environ 10 300. Cela vient en complément des recrutements qui se font de façon normale, tels que l'entrée au CAFOP. Le Premier ministre a rassuré les candidats qui seront retenus que leur intégration à la fonction publique sera discutée après 2 ans de contrat. En page internationale au Nigeria, 5 soldats ont été tués et on est sans nouvelles d'une trentaine d'autres 3 jours après l'attaque d'une base militaire du nord-est du Nigeria par le groupe Boko Haram, annonce faite par l'AFP aujourd'hui lundi. Les équipes de secours sont toujours à la recherche d'une trentaine d'autres soldats portés disparus depuis cette attaque. Après un intense échange de tirs, les soldats ont été débordés et un certain nombre d'entre eux se sont dispersés pour échapper au groupe Boko Haram mieux armé. Notons que l'armée nigériane n'a pas officiellement communiqué sur l'incident. Pour rappel, il faut dire que plus de 27 000 personnes sont mortes depuis le début du soulèvement de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria en 2009 et 1,8 million d'autres ne peuvent toujours pas rejoindre leur foyer. Dernière articulation de ce 12 heures dans une interview accordée à la radio de la paix au lendemain de sa rencontre avec le président ivoirien, Kwadio Konon Bertin dit Kakabé a émis le vœu de voir Alassane Ouattara et l'ancien président Laurent Gbagbo de se parler afin, dit-il, de favoriser la réconciliation nationale et la paix en Côte d'Ivoire. Il affirme également ne pas exclure la nécessité pour les Ivoiriens de sortir de la belligérance et s'inscrire dans la voie du pardon et de la paix dans l'intérêt national. Ancien député, Kwadio Konon Bertin dit Kakabé se prête aux questions de Jean-Claude Mabéa.
Kwadio Konan Bertin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été reçu en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. Mais avant, vous avez rencontré le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et oui. Vous êtes rendu également à Bruxelles pour rencontrer l'ex-président Laurent Gbagbo et Alaé Blé Goudé. Qu'est-ce qui fait courir Kakabé?
Quand on est PDCI RDA, on sait ce que c'est que le dialogue. C'est l'arme politique que nous a léguée le président Félix Houphouët-Boigny. Il aimait le dire, le dialogue, c'est l'arme des forts. Notre pays a fait la guerre. Heureusement, la guerre ne tue pas tout le monde. Il y a eu des morts, mais le vivant doit préparer l'avenir. L'avenir n'est pas possible si on ne se remet pas ensemble. N'oublions pas qu'un peuple uni, rien ne lui résiste. Il faut donc aller à la réconciliation. La réconciliation ici ne peut pas être un vain mot, ça doit être aussi un comportement, des actes concrets. La dernière fois que j'ai été à la haie, au sortir de la haie, je lançais un message pour dire que je lis le signe du temps et il me semble que nous devons rentrer dans un temps nouveau, le temps de la paix, le temps du rassemblement. Et j'ai invité les Ivoiriens, la classe politique, à sortir de la belligérance. Sortons donc de la belligérance définitivement et inscrivons-nous dans la voie de la paix par le dialogue. On ne dialogue pas avec soi. Pour dialoguer, il faut être à deux. Reconnaissons-le courageusement. Deux des nôtres ont été confrontés à une crise en 2010 suite à des élections mal maîtrisées. Mon souhait à moi, c'est que nous puissions amener le président de la République Alassane Ouattara et l'ancien président Laurent Gbagbo, ces deux frères, à se parler pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est acquitté. Il est libéré. La Côte d'Ivoire, c'est son pays. Il va rentrer dans son pays. De quelle façon va-t-il rentrer? Ça me préoccupe. Il ne faut pas attendre que le pire se produise pour qu'on s'en préoccupe. Gouverner, c'est prévoir. C'est anticiper. Si je cours, je cours pour la paix.
On pourrait se poser la question de savoir si Kakabé est en mission, si oui, pour qui et pourquoi.
Dès lors que j'ai décidé de faire la politique, je suis en mission parce que j'ai décidé de servir le peuple ivoirien. Donc, je me mets volontairement en mission. Quand je me sens interpellé, j'ai commencé cette mission du temps où j'étais député en exercice. Ce n'est pas parce que je suis plus député que je me sens plus intéressé par les problèmes des Ivoiriens. Je me considère de façon permanente en mission pour servir les intérêts du seul peuple de Côte d'Ivoire.
Vous avez échangé donc avec le président de la République. De quoi avez-vous parlé?
Pour l'instant, ça reste sur le sceau de la confidentialité.
Et pourtant, vous nous parliez de réconciliation, de cohésion et de retour de l'ex-président de la République. C'est sûr que vous avez demandé au président de la République de faciliter son retour.
Houphouët-Boigny m'a dit, quand le tigre est dans la forêt à la recherche de sa proie, on ne l'entend pas. Le jour où vous l'entendez, c'est qu'il a sa proie en ses griffes.
Exactement, que veut Kwadio Konan Bertin?
Je veux la paix.
Où est-ce
mon souhait, c'est qu'un jour, le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo se parlent. Regardez-vous, à l'époque, quand M. Ouattara et M. Bédié étaient en conflit, les militants du PDCI et ceux du RDA étaient aussi en conflit. Le jour où les deux se sont assis pour se réconcilier, même sans nous inviter, on les a suivis pour le bonheur des deux partis qui aujourd'hui sont au pouvoir. Et si on le faisait à l'échelle nationale, est-ce que ce serait pas beau? Voilà mon rêve.
Et pourtant, entre le RHDP et le PDCI, les ex-alliés sont très opposés aujourd'hui.
Excusez-moi de le dire ainsi, mais ce sont des questions secondaires.
Où est-ce que Kakabé se situe sur l'échiquier politique ivoirien aujourd'hui?
Je suis ivoirien. Je me situe nulle part. Même mon parti, le PDCI RDA, il est créé quand vous chantez son hymne. C'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Quand je sers le vaillant peuple de Côte d'Ivoire, je suis bien militant du PDCI RDA. Et je suis dans mon rôle.
Certains auraient pensé que Kakabé est en train de chercher un poste en ce moment.
Pourquoi veut-on résumer tout à ça?
Que voulez-vous donc qu'on retienne de vous, Kakabé?
Mais je veux qu'on retienne simplement de moi que je suis un patriote. Je suis dans la politique pour servir les intérêts des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont trop souffert, déchirés par la guerre. Nous sommes obligés de reconstruire l'unité nationale. Allons à la paix, allons au pardon. Oublions le passé. Laissons derrière nous le passé pour construire l'avenir. Même le président Gbagbo, je le lui ai dit, lui sort de prison, acquitté. Il doit rentrer dans son pays. Il ne peut pas rentrer dans son pays avec un cœur plein de haine. S'il a un cœur plein de haine, il doit s'éteindre d'une chose. Dieu l'y aidera pas. Dieu ne bénit pas la haine. Il doit avoir un cœur plein d'amour. En ce moment-là, nous savons que nous avons une chance à donner à nos enfants parce que nos enfants ne vont pas hériter de nous la guerre.
Le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé, dans quel état d'esprit sont-ils?
Heureusement, ils ont été très réceptifs à ce message et je pense que les esprits se mettent en place tout doucement pour qu'on aille tous au pardon. Nous sommes à un tournant décisif. Bien négocié, la Côte d'Ivoire va se relever. Mal négocié, nous risquons de plonger à nouveau. Et ils en sont conscients et c'est ça qui est salutaire.
Kakabé, bientôt c'est 2020, les élections c'est dans quelques mois. Quel message à l'endroit des Ivoiriens aujourd'hui?
J'invite les Ivoiriens à être sereins. On ne peut pas toujours vivre dans la hantise, la peur du lendemain des élections. Ce qui est important, récemment le Premier ministre, à la demande du Président de la République, a invité la classe politique à s'asseoir autour de la question création de la CEI. C'est une bonne chose. Quand j'ai été voir le Premier ministre, c'était pour le signifier, le féliciter et l'encourager à demeurer dans cette voie. En tant que militant du PDCI-RDA, notre rêve, c'est de voir la Côte d'Ivoire gouverner de cette façon. Tant qu'ils sont dans cette voie, je suis disposé. On peut compter sur moi à les encourager, à les y accompagner et à les féliciter.
Kwadio Konan Bertin dit Kakabé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'est sur cet entretien que nous refermons notre édition, mais avant de nous séparer, le rappel des principaux titres. Nous travaillons pour qu'en 2020, nous ayons une monnaie régionale au niveau de la CEDEAO. Ces propos ont été tenus par le président guinéen Alpha Condé lors de sa visite d'amitié et de travail effectuée récemment en Côte d'Ivoire. Une monnaie régionale au niveau de la CEDEAO, un thème d'actualité recouvrant plusieurs enjeux. L'objectif de 2020 est-il possible? La question divise beaucoup de personnes. La réponse nous a été donnée par Dr Prao Yao Serafin, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Commercialisation de la noix de cajou pour la campagne 2019 face aux difficultés d'enlèvement de produits au non-respect du prix du kilogramme. Un groupe d'opérateurs ivoiriens, des exportateurs et des acheteurs décide avec le soutien du Conseil du coton et de la nacarde de mener dans le Zanzan une opération baptisée zonage. En page internationale, au Nigeria, 5 soldats ont été tués et on est sans nouvelles d'une trentaine d'autres 3 jours après l'attaque d'une base militaire du nord-est du Nigeria par le groupe Boko Haram, annonce faite par l'AFP aujourd'hui lundi.